Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour monsieur, vous allez bien ?
Bah pas trop mal, pas trop mal. Alors finalement on n'arrête pas de se rencontrer puisque vous sortez disque sur disque sur disque.
Ouais.
Et alors là nous sommes au Sunside Sunset.
À mon âge il faut que je me dépêche parce que...
Alors là cette fois-ci c'est le retour de la vengeance volume 2 j'allais dire de Baby Boom.
Oui.
Donc Baby Boom c'était un projet qui est sorti il y a plusieurs années, c'était en 2002,
oui, je sais pas, j'ai pas le sens des dates du tout.
Et le but ou le projet de Baby Boom, donc c'était vous entouré de vos élèves, ils étaient quasiment presque tous je crois des élèves.
Oui, c'est d'anciens élèves, c'est des gens qui sont devenus surtout des amis et des collègues que j'ai fait travailler au départ au conservatoire. Et on s'entendait tellement bien, ils étaient demandeurs, moi aussi j'avais envie de faire quelque chose d'un peu nouveau. J'avais pas envie de retomber sur les travers des musiciens qui travaillent trop et qui sont pas libres et de jongler avec les dates. C'est ce qui arrive maintenant d'ailleurs, malheureusement, c'est qu'on est retourné à la case départ. Mais c'est vrai qu'au départ, je voulais avoir des gens plus disponibles et puis surtout qui m'apportent quelque chose musicalement, qui me donne envie d'avancer un peu.
Une stimulation générationnelle, voilà. J'allais dire, quelque chose qui vous...
Voilà, parce qu'il y a, dans chaque génération, il y a des apports nouveaux, et avec Baby Boom, je recevais des gens extrêmement professionnels, avec une grande maturité, mais très jeunes d'esprit. Et c'est fantastique de voir que toute cette génération de musiciens qui ont maintenant autour de 28, 30 ans, à 25 ans, ils avaient déjà un métier comme nous, on avait à peine à 50. Parce qu'ils ont tellement appris, ils savent tellement de choses, ils ont abordé tous les problèmes. Donc c'est formidable de travailler avec des gens comme ça. D'ailleurs, moi, dans certaines répétitions, c'est moi qui suis largué parce qu'ils vont tellement vite, ils comprennent tout, ils savent tout faire.
J'allais vous demander justement ce parallèle, c'est-à-dire que de confrontation, de stimulation. Est-ce que, comment vous vous êtes vu, vous, quand vous aviez leur âge, en jouant avec eux, vous dites ils savent tout faire, ils sont. Est-ce que vous pensez justement que cette génération a appris et est rentrée en religion de jazz de manière complètement différente par rapport à la vôtre?
Nous, on est une génération quasiment d'autodidacte. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas le support du disque à disposition. Les disques arrivent vraiment au compte-goutte. Alors, on essayait de suivre un petit peu la scène américaine. Il y avait très peu de concerts. On apprenait comme ça à l'oreille. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de méthode.
Il n'y avait pas d'école, même.
Il n'y avait pas d'école. Jazz, moi, je me rappelle que lorsque j'étais en Suisse et que j'ai voulu apprendre la batterie, je me suis dit, il faut aller au conservatoire pour apprendre la percussion. Et quand je leur ai parlé de jazz, ils m'ont jeté dehors tout de suite. Bon, donc, la situation était complètement différente. Et si on est un tout petit peu lent aujourd'hui, c'est parce qu'on n'avait pas les ressources. Seulement, on avait une chose formidable, c'est qu'il y avait l'école du métier, c'est-à-dire de jouer. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec tous les grands Américains, quasiment, pour les accompagner, parce qu'ils étaient en France et ils venaient seuls. Alors ça, c'est la seule grande différence qu'il y a entre le métier entre les années 60 à 80, c'est que les Américains venaient seul et jouer avec des rythmiques européennes. Maintenant, ils viennent en orchestre et il y a vraiment très peu de contact entre les jeunes et les orchestres parce qu'un orchestre vient, il se produit, on peut leur dire bonjour, on va boire un verre, mais il n'y a pas de contact humain et puis pas de contact direct de musique. Bon, ils ne travaillent pas ensemble. Alors moi, je leur apporte cette espèce d'énorme métier de jazz que j'ai, la routine, le sens de l'organisation d'une soirée, le dosage, et eux m'apportent leur fantaisie et tout. En fait, c'est un échange de bons procédés qui fonctionne parfaitement bien, en précisant aussi que je n'ai pas du tout une attitude de leader dans mon comportement. C'est-à-dire que j'évite tout ce que j'ai détesté, tous ces gens qui vous disent « fais ça, balaie, joue plus fort, moins fort, trop vite ».
C'était l'exercice majeur pour vous, justement, de ne pas jouer les patriarches, leaders.
Voilà, moi je ne veux absolument en aucun cas me sentir en état de dominer ces gens qui sont des musiciens formidables. Parce que moi, c'est mon rôle, c'est de les mettre en avant, parce que je suis leur tremplin. Voilà, je leur permettrai peut-être par mon expérience d'accéder plus rapidement à la notoriété.
Là, la difficulté, vous êtes un représentant parfait pour du concept de jazz, c'est la liberté, le jazz. Et quand on étudie le jazz dans une école, on pourrait dire dès le début que ça commence presque mal, à la rigueur,
attendez, ça dépend des écoles. Parce que le travail qu'on a fait au conservatoire, on leur demandait, d'abord il y avait des profs super, parce que la grande intelligence de ce conservatoire de la ville de Paris, c'est d'avoir compris que des musiciens qui enseignent et qui sont des musiciens professionnels dans le circuit ne peuvent pas d'un jour à l'autre arrêter d'exercer la profession de concertiste. Donc on nous a toujours laissé de la liberté et par ce fait on a pu avoir des profs qui étaient des gens à tout à fait au courant, pas des gens qui avaient une profession de prof, mais ils étaient musiciens enseignant leur musique vivante. Et puis on a demandé simplement, il y avait des contraintes de répertoire, de technique, de lecture, et le reste c'était tout à fait ouvert. Nous, notre histoire, c'est pas de faire des clones, c'est de former des musiciens ayant un bagage suffisant pour fonctionner dans le métier, et la créativité, tout ça, après c'est leur problème. Mais il n'y a aucun barrage là-dessus. On n'enseigne pas la créativité, mais on peut provoquer des situations où on leur fait sentir que c'est ce qu'ils ont besoin d'avoir pour s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, moi quand je suis arrivé dans le métier en France, il y avait 3-4 batteurs qui faisaient le métier, qui pouvaient jouer, qui pouvaient faire une affaire. Maintenant, il y en a 200. Bon, sur chaque instrument, vous avez une quantité incroyable de bons musiciens, mais il n'y a pas plus de clubs, il n'y a pas plus de travail, peut-être moins. Les conditions sont très difficiles. Alors la sélection se fait, vraiment il y a un barrage naturel qui fait qu'il faut être très bon pour travailler. Alors moi c'est mon rôle, c'est ça, c'est de leur essayer de leur faire comprendre où ils doivent se situer pour fonctionner.
Donc là c'est le baby boom numéro 2. Donc une situation totalement différente, puisqu'effectivement, les musiciens en question ont depuis volé de leurs propres ailes, des projets différents.
C'est pour ça que j'ai changé le nom. Voilà. Ça ne s'appelle plus Baby Boom, c'est Bonus Boom, parce que je voulais garder le bébé, à cause de Brigitte Bardot, bien sûr.
Alors donc justement, ce n'est pas 20 ans après, comme le roman, c'est 6 ans après. Comment vous avez abordé justement l'enregistrement par rapport au précédent ? Est-ce que vous aviez vraiment dès le départ une idée précise par rapport à ce disque-là ? Ou c'était juste on se retrouve en studio et on en fait un deuxième ?
Non, parce que je n'aime pas fabriquer des produits. Alors, ce que je voulais, c'est essayer de retrouver au maximum cette atmosphère de la scène, c'est-à-dire qu'on monte sur scène sans avoir... On a un répertoire, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de programme établi. C'est-à-dire que les choses viennent quand elles sont lancées. C'est-à-dire qu'avec ces musiciens à réflexe époustouflant, il y a deux notes jouées par l'un des membres, immédiatement les wagons se raccrochent et on part sur la proposition. Donc c'est un tissu, je voulais faire un disque qui soit un tissu de proposition avec des morceaux qui arrivent le mieux possible, avec le plus fraîchement possible. Alors évidemment, après, on a fait un ordre, on a choisi, on a éliminé beaucoup de choses. D'ailleurs, le disque est assez court parce que je ne voulais pas faire du remplissage. Les 40 minutes du disque sont, je crois, assez intenses et sont de qualité. Voilà, c'est ça mon propos. Mais je connais trop les formules de fabrication de la musique qui plaît. J'en parlais avec un critique d'ailleurs encore aujourd'hui et qui me disait, mais tu sais, un tel, il a fait un disque, il en a vendu 15 000. J'ai dit, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il a fabriqué un truc qui est
produit.
Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Mais je sais parfaitement ce qu'il faut faire. Parce que Sidney Bechet à l'Olympia, avec toute la suite et même la musique récente, on connaît ce qui marche sur les gens. Parce que le public n'a pas la même écoute que le musicien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique pour satisfaire les gens avec lesquels je joue et que les musiciens et les gens spécialisés trouvent bien. Voilà. Maintenant, s'il faut faire pas de la soupe, mais s'il faut faire un produit à vendre, je m'y prendrai autrement, mais je veux qu'on me paye beaucoup d'argent pour le faire.
Ce nouvel album, il y a évidemment essentiellement des compositions nouvelles des participants et toujours, puisque la tradition, enfin le jazz est pour vous toujours important, après on le défait, on le refait dans tous les sens, donc il y a notamment une composition d'Ellington, ou d'Indigo, donc c'est vraiment le côté à chaque fois, on laisse un pied dans la maison de jazz, oui, mais on essaye de démonter la...
Oui, mais alors très curieusement, c'est le musicien le plus... entre guillemets, farfelu de l'orchestre, qui est Monio, qui a un jour a eu envie de jouer sur scène Mood Indigo. Moi, ça, j'aurais pas osé. Et bon, on l'a gardé, tout le monde est content de le faire, et c'est bien, mais c'est pas du tout une espèce de bouée traditionnelle qu'on veut. On a pas, je vais vous dire très franchement, sans aucune prétention, j'ai pas envie de faire croire. Qu'on a un bagage avec l'air de dire oui, vous savez, mais ça, on sait aussi le faire. Ce qu'on fait, est dédouané par une espèce de tradition qui rassure. C'est un peu comme quand on vous dit, quand vous êtes peintre, vous avez fait les beaux-arts, ouais, comme si c'était indispensable de faire les beaux-arts pour faire de la peinture. Bon, j'ai pas envie d'être là à dire, vous savez, le jazz ancien, je sais le faire, voilà la preuve. C'est pas ça du tout, c'est que Mood Indigo est arrivé comme ça, on s'est amusé à le faire, on continue à s'amuser, le jour où on ne s'amusera plus avec ça, on ne jouera plus. C'est pas un hommage, c'est pas un retour aux sources.
Quel a été l'impact de tous ces musiciens sur votre jeu, aujourd'hui, par rapport au premier album ?
Bon, on se connaît mieux, il y a une plus grande maturité, on a plus de confiance. Ils ont volé de leurs propres ailes. Ils ont commencé à aborder un petit peu tous les problèmes du métier. Et on sent que la situation est plus posée. Mais il y a toujours cette fraîcheur. S'il n'y avait pas cette fraîcheur, ça m'intéresserait vraiment beaucoup moins. Mais à chaque fois qu'on joue, même un morceau qu'on a joué à tous les concerts, il n'est jamais joué pareillement.
Justement, le studio, c'est quelque chose qui peut brider par rapport à la scène, pour ce genre de formation.
Oui, moi, j'aime pas le studio, par principe. Je n'aime qu'un studio, c'est la Buisson avec De Haro. Quoique l'enregistrement est très bien fait, notre ami Ducrot a très bien travaillé. En plus, le mix est très bien fait. Mais j'aime jouer dans un studio, je puisse jouer dans les mêmes conditions qu'un concert. C'est-à-dire qu'on ne va pas me dire, attention, la batterie est trop forte. Y a, avec De Haro, à la Buisson, vu le lieu, aussi l'acoustique, nous permet de jouer tout à fait normalement, et j'oublie complètement qu'on est en train d'enregistrer. En fait, c'est ce qui me plaît. Moi, mon plaisir, ça serait d'enregistrer en club, sur une semaine, puis ensuite, on va écouter. Si on a la patience, on écoute tout, on nettoie, et puis on garde ce qu'il y a de mieux, parce que c'est quand même là qu'on s'exprime le plus violemment dans ce genre de musique. Parce que quand on est en studio, on a toujours quand même la contrainte de faire attention de ne pas mettre des prunes. Alors, finalement, on met beaucoup plus de prunes quand on fait attention. Alors que quand on est libre sur une scène comme ce soir, si ça se trouve, une prune amène une innovation.
Aujourd'hui, à ce moment précis de votre
carrière. Elle m'apporte surtout l'impression que quand je sors de scène, d'abord, je me suis bien amusé. Et souvent, j'ai appris quelque chose et je vois la musique un tout petit peu différemment, la musique d'orchestre différemment. Et puis, j'entends des sons qui m'intéressent, que je n'avais pas entendus avant. Et je, vraiment, très, très honnêtement... Pour moi, c'est un groupe exceptionnel parce que la fraîcheur de la musique, la créativité est toujours là. Et je pense que si on était américain, on en revient toujours au même truc. C'est du jazz fait en France. C'est malheureux, mais il y a toujours une méfiance. J'ai toujours l'impression que, étant non-américain, blanc, machin, on a comme si on devrait demander l'autorisation de faire du jazz. Et quand les gens nous parlent, on dit « Ah, ce soir, c'était bien », mais il y a une espèce de surprise que ça peut être bien, alors qu'on ne fait jamais ça avec des Américains.
Il faudrait sortir l'album sous un pseudo, en changeant les noms.
Oui, mais j'avais pensé à ça, faire un disque un jour avec
caché.
Des noms inventés,
ouais,
et puis d'arriver jusqu'à faire voter des gens au référendum pour des musiciens qui n'existent pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un gros problème qui n'existe pas d'ailleurs aux États-Unis. Quand vous jouez à New York, personne ne va vous dire « Ah, vous êtes français », ils vous disent français parce que ça, c'est une curiosité. Mais ce n'est pas un handicap. Ici, le fait d'être un musicien local, c'est un handicap, et après 50 ans, j'en suis absolument persuadé, et ça n'a pas changé du tout. Parce que le premier Américain qui arrive, même 100 fois moins connu que moi, a des conditions d'accueil et des possibilités de travail que nous n'avons pas. Moi, je peux vous citer plein de festivals en France où je n'ai jamais joué, et en Europe, encore pire. Alors, j'ai beaucoup travaillé, on nous connaît, je ne suis pas en train de me plaindre, mais c'est vrai que, par exemple, pour aller jouer à Marciac ou à Antibes, il faudrait avoir tué le petit Grégory. Je crois qu'en fait, en musicien français, la seule solution, c'est de se faire arrêter, d'avoir commis un meurtre. Alors, François va en parler, on va lui filer des affaires.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, moi.
Ouais, oui. Ou alors faire un truc comme la Star Academy, ce qui a été la grande chance de Manu Katché. Regardez, pas à cause de ça, mais ça a beaucoup contribué à faire qu'il joue absolument partout. Chaque fois que je vois une affiche de festival, il y a Manu Katché dedans. Manu Katché, il n'a pas du tout fait le parcours que j'ai fait à la batterie dans le jazz. C'est un batteur formidable qui a surtout joué dans le studio, mais au niveau du jazz, je crois qu'il n'a pas dû faire 30 jours dans des clubs. Ouais. Alors ça, c'est quand même un petit peu fatigant. Ceci dit, je m'en fous parce que j'ai ce qu'il faut pour vivre, parce qu'on vit modestement, très agréablement, j'ai une vie formidable, mais je trouve que maintenant il serait temps que les choses changent pour la génération qui arrive.
là, sur votre jeu, la formation avec deux sax, basse, batterie, une guitare, manicodia. Comment cette formation-là agit sur vous, sur votre...
Chaque fois, en fait, c'est pas les instruments, ce sont les hommes. Parce que il y a deux saxophones, une guitare, c'est un son qu'ils vont trouver. Il y aura un mixte nouveau, inhabituel, c'est pas trompette ténor. Donc on s'éloigne un petit peu d'une certaine tradition d'orchestre post-bop, ou de l'époque, bon, si vous prenez Fred Hubbard, Joe Anderson, ou les Jazz Messenger, ou Miles Davis, ça a toujours été un petit peu de trompette ténor, sauf quand il y a eu Scofield avec Miles. Mais bon, c'est une recette de base. Ça pourrait très bien être une autre. Moi, c'est pas l'instrument qui pose le problème, c'est l'homme.
Vous adaptez, c'est ça, à la discussion, à la conversation.
Non, on crée un nouveau terrain d'atterrissage. Parce que deux saxophones, ça peut être soprano-baryton, ça peut être deux sopranos, ça peut être sopranino-alto, ça peut être plein de choses, ça peut être clarinette. Je crois qu'il faut trouver un répertoire qui sonne pour la formation avant de faire une autre approche. Je crois que le premier truc, c'est d'arriver à choisir un répertoire, de voir ce qui va fonctionner comme ça, quelle est la position et la place de chaque instrument. Par exemple, la guitare dans Baby Boom avec Kodja, si c'était un autre guitariste, ça ne sonnerait pas pareil. C'est ça qui est très important. Un musicien n'est pas interchangeable.
Mais vous jouez avec Kodja avant de jouer avec un guitariste.
Voilà, j'ai pris Kodja, j'ai pas pris un guitariste. Et si Kodja s'en va, je suis pas sûr que je vais prendre un guitariste, par exemple.
Alors vous n'aimez pas le studio, mais vous sortez beaucoup d'albums, vous enregistrez beaucoup. C'est quoi pour vous un enregistrement? C'est justement c'est une petite photo d'une rencontre.
Attendez, j'ai sorti 2-3 disques cette année, sur 2 ans. J'ai fait un trio avec Couturier Céléa qui est complètement différent de tout ce que je fais. J'ai fait une chose très différente encore avec Malabi et Kuhn, sans basse, parce qu'on avait besoin de le faire à un certain moment. Il me semblait que c'était vraiment très pointu pour nous d'attaquer là-dessus, parce qu'une formation ténor, piano, basse, en plus c'était une retrouvaille avec Kuhn, que je ne pratiquais plus du tout depuis la mort de Jenny Clark. On avait décidé d'arrêter le trio. On avait envie de refaire quelque chose. C'est arrivé au bon moment. Ce n'était pas pour faire un disque. C'est parce qu'on sentait qu'on avait besoin de réaliser quelque chose ensemble, et qui est aussi un matériau pour travailler. Parce que quand vous savez très bien que maintenant, si vous n'avez pas un disque, personne ne vous engage. Il faut l'actualité récente, très récente, et la prime sur tout le reste. On a beau vous dire, on vous dit, ah, il est très bon lui, mais est-ce qu'il a fait un disque cette année? C'est comme à la télévision, si vous n'avez pas quelque chose à vendre, vous ne passez plus à la télévision. Et il y a ce syndrome dans le jazz maintenant, que si vous n'avez rien à vendre de récent, on ne vous prend pas, parce qu'on a l'impression que vous avez vu 20 fois. Il ne faut pas oublier qu'on est des musiciens locaux. C'est-à-dire que si on a l'occasion de prendre une chose tout à fait innovante ou un peu plus rare, ils vont vous sacrifier, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que juste, bon, il est là, on le prendra la prochaine fois. Alors la prochaine fois plus la prochaine fois, ça fait que vous ne travaillez pas. Donc ça, c'était une des raisons de faire ces deux disques. Et le troisième, Baby Boom, c'est parce qu'on a fait un disque il y a longtemps, 5 ans, et que c'est un groupe qui tourne, et que tout le monde nous disait quand est-ce que sortait un nouveau disque. Donc voilà, il sort. Mais puis il ne faut pas oublier non plus que j'ai 70 ans, et que je ne vais peut-être pas avoir la pêche pour bombarder comme je bombarde en ce moment, très longtemps. Donc je préfère le faire plutôt que faire mes adieux au music hall.
Et dans... puisque c'est lié à des rencontres, logiquement, on pourrait dire, est-ce que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, une envie d'enregistrement de rêve, c'est-à-dire que vous avez, un chèque en blanc, vous pouvez avoir qui vous voulez, faire le disque que vous voulez, dans la forme, avec la formation que vous voulez.
Actuellement, j'aimerais faire un disque avec Kenny Barron, un très bon bassiste, un peu moderne, mais quand même un tout petit peu dans la tradition, genre Chris McBride ou bien Scott Colley, et peut-être George Garzon au saxophone. Refaire un disque un tout petit peu traditionnel, c'est-à-dire plus qu'à l'aise, pour changer un peu, simplement pour doser avec ces deux, trois disques.
Ce que j'allais dire, ce serait une réponse un peu de vos derniers enregistrements.
Voilà, pour varier un peu. Parce que je ne voudrais pas qu'on me catalogue dans la série des batteurs qui font que des trucs un peu borderline.
Vous n'aimez pas les étiquettes, en fait.
Ah, moi, je déteste ces étiquettes. Quand la mode du free était là, je n'ai jamais revendiqué ça, parce que Louis Armstrong, il est aussi free que le plus free des friteux. Alors, la musique, il faut que ça soit sincère, pas calculé, honnête, et surtout très frais. Il faut que quand on va écouter un artiste, ça soit intéressant. Si on a l'impression qu'on a déjà vu le film, sauf si on est technicien et qu'on veut disséquer, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Un film, c'est pas pareil, parce que c'est un travail, mais là, on improvise. Bon, pour que ça soit bien, il faut que ça soit vivant et frais, voilà.
Merci, Daniel Humer.
Merci.
Rencontre par Marc Zisman.